Le magazine des Nations Unies.
Bienvenue dans votre magazine du dimanche. À la une, la situation sécuritaire à l'est du pays, principalement au nord Kivu, où la menace du M23 plane toujours dans le territoire de Rutshuru. Décryptage, il sera question aujourd'hui du concept Cash and Venture. La chargée de communication du PAM nous en dira un peu plus sur la question. Nous ferons également un tour dans 10 provinces de la RDC où plus de 13 millions de Congolais sont frappés par l'oncocercose. Merci d'être à l'écoute de votre magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour, au Nord Kivu, nous le disions en titre, les FRDC ont engagé mercredi dernier des combats contre le M23 dans la cité de Kiwanja à Rutshuru Centre, à Kalengera ainsi que dans la région de Rugari. Gisèle Cage nous en parle.
Depuis 5h ce matin, les forces armées de la RDC font à nouveau face au M23. Selon des sources militaires à Goma, le M23 venait d'attaquer les positions des FRDC dans la cité de Kiwanja et au chef-lieu du territoire de Rutshuru ainsi qu'à Kalengera. À Rugari, environ 40 km de Goma, les unités FRDC qui combattaient depuis hier le M23 seraient actuellement en progression vers Rumangabo, 50 km de Goma. Le mutin étant délogé de Rugari, les FRDC mettent le cap sur Rumangabo pour notamment assurer son contrôle, selon un officier militaire engagé dans cette contre-offensive. À Kalengera, Rutshuru Centre ainsi qu'à Kiwanja, d'intenses combats continuent à opposer les soldats réguliers aux rebelles, selon des témoins sur place. La MONUSCO n'est pas en reste dans ces affrontements. C'est avec ses hélicoptères de combat qu'elle pilonne les positions du M23, dont les collines surplombant les 4 localités, affirment nos sources. Certains habitants de Kiwanja et Rutshuru ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO à Kiwanja. D'autres populations de Kibumba, proches de Rugari, affluent vers Kanyaruchinya, à 7 km de la ville de Goma. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Précisons que cela s'est passé mercredi et le lendemain, c'est-à-dire jeudi dernier, nous apprendrons que la localité de Rumangabo, située à 50 km au nord de Goma, était à nouveau sous contrôle des rebelles du M23. Des sources concordantes dans la région confirment l'information. Ces mêmes sources précisent que la reprise du camp militaire de Rumangabo était intervenue dans la soirée à l'issue des combats qui ont opposé les FRDC aux rebelles. Des affirmations qui ne sont cependant pas confirmées par les responsables des FRDC. Toujours au sujet de la situation dans l'est du pays, le porte-parole militaire intérimaire de la MONUSCO a expliqué lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier les différents paliers de la démonstration de force conduite par la MONUSCO. Ces propos sont recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
La démonstration de force vise à employer la force de façon démonstrative dans un but dissuasif. Elle se fait par différents paliers qui sont autant de gradations avant d'en arriver à l'extrême limite qui est l'utilisation de la force létale. Le premier palier d'une démonstration de force consiste simplement à un survol bas de l'aéronef au-dessus des positions qui ont été identifiées qui permettent de passer le message suivant selon lequel les individus au sol ont été repérés et qu'on est capable de les surveiller et de suivre leur évolution. Le deuxième palier consiste à tirer tout ce qu'on appelle des leurres thermiques ou des fusées éclairantes qui sont un petit peu plus visibles et qui permettent de passer le message suivant, de dire attention, non seulement nous avons vu, mais nous sommes capables d'ouvrir le feu sur vos positions. Et le palier suivant dans l'emploi de la force serait pour le coup l'utilisation de munitions réelles, mais tirées délibérément à côté de la position visée pour indiquer non plus seulement nous avons vu, nous sommes capables de tirer sur vous, mais en plus voyez quels effets nous sommes capables de produire sur vous si vous franchissez la ligne rouge. Voilà un petit peu les différents paliers successifs que nous pouvons observer dans le cadre de démonstrations de force. Donc le principe de la démonstration de force peut évidemment impliquer le tir de munitions réelles, comme je vous l'ai impliqué, sans que ce soit véritablement dans un objectif, dans une intention de neutralisation. Voilà. Maintenant, si, quand cela ne suffit pas, évidemment, nous pouvons toujours envisager l'extrême limite d'utiliser la force dans un but de neutralisation.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Depuis 2 semaines, à Dongo, dans la province de l'Équateur, près de 20 retournés du Congo-Brazzaville bénéficient d'une opération de réintégration sociale et économique. En clair, ces retournés reçoivent du programme alimentaire mondial des vivres sous forme de cash and venture. Je vous invite donc à comprendre ce que cela signifie dans le cadre du décryptage. Fabienne Pompé, chargée de communication au PAM, s'exprime au micro de Jean-Pierre Elali.
Madame Fabienne Pompé, bonjour.
Bonjour.
Depuis 2 semaines, le PAM en entamé des distributions sous forme de cash and voucher dans la province de l'Équateur. Et c'est quoi cash et voucher?
C'est un système où, au lieu de distribuer des sacs de nourriture, de la farine ou des légumineuses comme on faisait avant, on propose aux bénéficiaires de leur donner soit des coupons, ça s'appelle des vouchers, c'est-à-dire c'est, ça ressemble à...
Des bons d'achat
voilà, c'est un bon d'achat, un petit papier, on va échanger ensuite chez les commerçants, ou directement du cash, c'est-à-dire de l'argent liquide. Alors évidemment, on ne donne pas des grosses quantités en même temps pour pas que ça attire les voleurs, donc c'est des petites quantités, juste pour que la famille puisse se nourrir pendant un mois. Dans le cas de l'Équateur, donc c'est des dons qui sont de l'équivalent de 24 dollars. C'est ce qu'il faut à une famille pour acquérir sur le marché local la même quantité de nourriture que celle que lui aurait donné le PAM si on avait donné de la nourriture sous forme de farine, par exemple.
Et auprès de qui ils doivent avoir ces produits alimentaires?
Et ils s'approvisionnent sur les marchés locaux. Avant, évidemment, de choisir ce système-là, on s'assure que les marchés locaux sont suffisamment approvisionnés en nourriture, en céréales, en viande, en légumes, en tout ce qu'il faut, pour que les gens puissent échanger cet argent, c'est-à-dire sur les marchés traditionnels normaux.
Et vous parlez de l'Équateur, de quelle population de l'Équateur il s'agit?
Alors en fait, c'est une aide qui est apportée aux réfugiés qui étaient du côté du Congo-Brazzaville.
Disons des retournés.
Voilà, et qui retournent maintenant donc, côté RDC. Donc pour le moment, donc, c'est une distribution qui se fera sur 3 mois. Et en tout, on va toucher à peu près 22 000 personnes d'ici à la fin décembre, de gens qui retournent, qui reçoivent donc cette aide, qui leur permet, pendant le temps où ils vont pouvoir retrouver leur champ, parce que vous imaginez bien, quand ils rentrent, ils n'ont pas de culture. Il faut le temps qu'ils plantent, qu'ils récoltent, etc. Donc ça va aider à faire la jonction, en fait, entre le moment où on revient et le moment où on peut assurer soi-même son alimentation.
Et pourquoi 3 mois, pas 2 mois, pas 5 mois? Pourquoi?
En général, c'est toujours 3 mois. Qu'on fasse des distributions en vivres ou des distributions en cash ou des distributions en bons d'achat, c'est toujours pour 3 mois. Ensuite, les personnes qui sont extrêmement vulnérables, il peut y avoir d'autres mécanismes d'aide. Mais en général, c'est 3 mois.
Alors, quel est l'avantage de cette nouvelle procédure pour aider les retournés?
Il y en a plusieurs. L'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint d'emmener de la nourriture parfois de très loin. Imaginons des sacs qui viennent, je ne sais pas, du Brésil, d'Espagne, des États-Unis, qui vont donc traverser les océans à grands frais, parce que c'est quand même cher, donc ça a une empreinte carbone aussi importante, c'est-à-dire pour l'environnement, c'est moins bien. Là, on a tous ces frais qui sont en moins. C'est là où ça devient très intéressant. Ça permet 2 choses. Ça permet aux bénéficiaires d'acheter la nourriture qu'ils veulent, c'est-à-dire ils choisissent ce qu'ils vont manger. Ensuite, ils réinjectent de l'argent dans le circuit économique local, donc ça bénéficie à eux, mais aussi aux commerçants ainsi qu'aux producteurs locaux. Donc finalement, c'est une incitation à la reprise économique. Et ces gens qui rentrent dans leur village, ben, tout d'un coup, ils sont plus vus par les autres comme des assistés. Ils sont vus comme part entière du circuit économique de la communauté. Et c'est très important pour retrouver sa dignité. On n'est pas des assistés, on est des gens qui participent à la vie communautaire.
Mais il y a des périodes cycliques, par exemple, où les agriculteurs ou même les paysans ne produisent pas assez. Et lorsque on se trouve dans ces conditions, que préconisent alors les PAM?
Alors justement, on n'abandonne pas la façon traditionnelle qu'on avait jusqu'ici de faire de l'assistance. C'est-à-dire qu'évidemment, soit quand les marchés ne sont pas suffisamment achalandés, qu'il n'y a pas assez de nourriture, ou par exemple qu'il y en a un peu mais pas suffisamment, on risque de faire monter les prix. Alors ça, on ne fait pas. On fait très attention. Dans ces cas-là, on revient à la forme traditionnelle, c'est-à-dire qu'on vient avec les sacs de farine, avec l'huile, avec le sel, voilà, tout ce qu'on fait habituellement.
Est-ce que cette opération-là pourra s'étendre dans d'autres provinces? Parce que c'est une bonne expérience que vous êtes en train de mener, selon certains auditeurs qui nous suivent. Mais est-ce que cette opération pourra s'étendre dans d'autres provinces du pays? Mais je crois que vous avez commencé aussi quelque part à Caballo. Je crois que c'est dans le même sens.
Non, pas... non. On a commencé, en fait, on fait dans 3 endroits, on faisait du... même 4 maintenant, de la distribution de coupons. C'est-à-dire c'est un peu le même principe, seulement au lieu de donner de l'argent, on donne un bon d'achat qui a la même valeur et qu'on échange auprès des commerçants. Donc ça, on l'a fait surtout dans les zones de grande insécurité où c'est mieux de donner des bons d'achat que de l'argent. Donc ça, c'est fait dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu et dans le Katanga, effectivement. On continue à le faire. On le fait en ce moment, par exemple, à Erengeti, près de Beni, où il y a plus de 20 000 déplacés dans un camp. Un petit peu moins de 20 000, ils sont 18 000. Auxquels nous avons distribué très récemment des bons d'achat pour qu'ils puissent s'approvisionner sur le marché.
Et si je comprends bien, cette opération s'exerce à des endroits où il y a des déplacés. Et est-ce que vous pouvez étendre, par exemple, dans le Bandundu, où vous ne parlez pas de problème des déplacés, ou bien vous pouvez aider les paysans d'une façon ou d'une autre?
Ce n'est pas une aide aux paysans, c'est une aide aux personnes qui sont en insécurité alimentaire sérieuse, c'est-à-dire des gens qui, en général, parce qu'ils sont déplacés ou réfugiés ou retournés, n'ont pas les moyens d'assurer leur propre subsistance, de façon temporaire. Là, nous les aidons. Donc, dans le Bandundu, les gens ne sont pas déplacés, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas une crise. En revanche, ce à quoi vous faites allusion, c'est qu'il y a des poches de malnutrition très importantes. Il y en a au Bandundu, il y en a dans les Kassai, où là, on a des taux de malnutrition, notamment chez les enfants.
Et là, les femmes interviennent.
On intervient, mais pas du tout de la même façon, puisque là, il s'agit de faire, en fait, de la lutte contre la malnutrition chez les enfants. Et là, c'est avec toute autre sorte de nourriture. On leur donne des suppléments alimentaires qui sont fabriqués spécialement pour lutter contre la malnutrition aiguë.
Revenons un peu à l'Équateur, où se passe exactement cette opération bon d'achat, j'allais dire.
En fait, c'est dans plusieurs endroits. Les gens, en fait, récupèrent cet argent au moment où ils rentrent chez eux. C'est dans cette région, effectivement, Dongo, Libangé, Gemena, c'est dans un triangle là, d'où venaient les personnes qui avaient dû se déplacer il y a quelques années et partir au Congo-Brazzaville.
Ouais, pour terminer, il y a des troubles à l'Est et il y a aussi beaucoup de déplacés. Comment on peut évaluer maintenant l'assistance humanitaire du PAM, notamment au nord et au sud Kivu?
Oui, au nord et au sud Kivu, vous savez, on a à peu près 600 000 personnes déplacées. PAM en aide au moins la moitié, presque 400 000, entre le nord et le sud Kivu. Mm-hmm. Donc, avec des distributions générales de vivres, c'est-à-dire avec les sacs de farine, les légumes, l'huile, etc. Aussi sous forme, comme je vous le disais, de bons d'achat. Du mieux qu'on peut, dans les conditions difficiles actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements fréquents.
Oui.
Vrai aussi qu'on ne s'attendait pas à une telle augmentation du nombre de déplacés. Et que financièrement, effectivement, il faut que de nouvelles aides soient attribuées pour qu'on puisse faire face à la demande énorme et inattendue, un peu plus d'un million de déplacés en tout, et donc énormément de besoins, notamment en termes d'assistance alimentaire.
Oui, énormément de besoins, donc il y a beaucoup à faire là-bas.
Exactement.
Alors, c'est en ces termes que nous terminons cet entretien avec Fabien Bompei. Je rappelle que vous êtes chargé des communications au PAM RDC, et je vous remercie, madame.
Je vous remercie.
Les nouvelles en presse, le Fonds commun de la RDC a alloué 375 000 dollars américains pour lutter contre le paludisme dans le district du Bas-Ouélé en province orientale. Selon Ocha qui a livré l'information, cette allocation permettra à l'ONG internationale MEDER d'exécuter un projet d'urgence contre la maladie de juillet 2012 à juin 2013. Pendant trois jours, du 26 au 28 juillet, les chefs d'antenne communale de la Division des droits humains ont appris comment mieux collecter des données sur la situation des droits de l'enfant dans la ville de Kinshasa pour produire des rapports documentés et périodiques. Des assises organisées à Kinshasa par l'UNICEF en collaboration avec le Comité interministériel des droits humains et le Centre Carter. Notre forum, c'est lui qui organise le PNUD depuis mercredi dernier sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes pour la promotion de la citoyenneté démocratique. Objectif, favoriser la participation des jeunes à la vie politique du pays et prévenir l'instrumentalisation de la jeunesse à des fins de violence politique avant, pendant et après les périodes électorales. Cette rencontre réunit une cinquantaine de représentants des jeunes venus de Kinshasa et du Nord Kivu. Et puis la division de l'information de la MONUSCO poursuit sa campagne de sensibilisation sur le mandat de la MONUSCO. Vendredi dernier, c'était le tour des groupes de sportifs et communautés à la base, encadrés par l'ONG dénommée Solidarité pour le développement et le progrès social de la commune de Makala à Kinshasa, de s'imprégner du rôle et de la place de la MONUSCO dans le processus de paix en RDC. Fin des nouvelles en bref, place à l'invité.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Avec notre invité de ce dimanche, nous parlons de la passation des marchés. Et notre invité n'est autre que le responsable des passations des marchés de tous les projets financés par le FIDA en République démocratique du Congo. Monsieur César Landou, bonjour.
Bonjour Madame Mireille.
Le Fonds international de développement agricole vient de superviser à Kisangani un atelier de formation sur la passation des marchés selon les procédures du FIDA.
Oui.
De quoi s'agit-il exactement et l'atelier a duré combien de temps?
Oui, merci beaucoup pour la question. Cet atelier s'est tenu à Kisangani du 15 au 21 de ce mois.
C'est quoi la passation des marchés?
Bon, en fait, la passation des marchés, c'est un cycle qui part de l'identification des besoins jusqu'à l'exécution d'un contrat. Je peux donner un exemple. C'est un projet qui veut arranger un tronçon de route. On identifie les besoins, c'est ça l'arrangement des routes, et on donne toute la procédure qui va amener jusqu'à l'obtention de ces résultats-là. C'est ce que j'appelle l'exécution du contrat.
Mais qu'est-ce que la passation des marchés selon les procédures du FIDA a de différent des autres techniques de passation de marché dont on parle?
Oui, je sais que les procédures du FIDA sont très apparentées à celles de la Banque mondiale et c'est très compatible avec les codes des marchés publics de la RDC. Donc, il n'y a pas tellement trop de contradictions.
Et quelles sont ces directives?
Oui, bon, les directives sont vastes. Hein, et c'est,
notamment
Notamment, bon, il faut qu'il y ait la transparence dans les processus de passation de marché. Il faut un processus économique, il faut un processus équitable. Il faut un processus qui encourage les initiatives locales et tout, voilà.
Et c'est purement économique, hein? Qui ont bénéficié de cette formation?
Bon, pour essayer de faire participer un plus grand nombre, on a appelé les cadres de tous les programmes du FIDA qui sont en RDC. Et en plus de ça, on a appelé les participants tels que des partenaires à nos projets.
Lesquels?
Bon, il y a les services publics, il y a eu la division des finances, la division provinciale des finances, il y a eu la division provinciale de l'agriculture de la province orientale, et il y a eu les représentants des entrepreneurs, des fournisseurs et tout, voilà.
Et qu'est-ce que vous attendez de ces bénéficiaires?
Bon, nous attendons des bénéficiaires qu'ils comprennent, parce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui perdent facilement la patience devant les procédures des bailleurs de fonds. Ils auraient voulu que l'on obtienne directement ce qu'on veut, sans passer par les procédures, et donc il fallait leur expliquer comment se présentent les procédures.
Donc ces procédures la traînent, hein, d'habitude.
Oui, bon, vous savez, quand quelqu'un tient à avoir ses ordinateurs, c'est-à-dire qu'il en a besoin. Pour lui, ça devait venir demain. Mais les bailleurs ont dit qu'il faut un certain nombre de processus pour arriver à avoir la meilleure qualité au meilleur prix.
Vous avez sûrement eu des entretiens avec ces bénéficiaires. Pensez-vous que ces assises ont produit les résultats escomptés auprès de ces participants?
Bon, à l'issue de ces assises, tout le monde, il y a eu engouement, tout le monde était très content d'avoir appris quelque chose de nouveau par rapport aux procédures du FIDA. Et même les cadres de nos programmes sont très contents parce que toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la mise en œuvre de leur marché et tout, on en a parlé et puis on a proposé des solutions. Voilà.
Qu'est-ce qui a suscité l'organisation de cet atelier?
Bon, en fait, c'est parti d'un constat fait par le gouvernement et par le FIDA par rapport à la qualité du travail fait au niveau des programmes en ce qui concerne les processus de passation des marchés. Il y a eu beaucoup de lacunes dans les chefs des cadres de programmes du FIDA. Alors, pour remédier à tout ça...
Quel genre de problème?
Bon, par exemple, la lenteur dans l'exécution des contrats. Vous allez voir un contrat signé en 2010 qui court encore jusque une année après, pendant que le délai contractuel pour ce contrat-là, c'était de 5 mois. Mais tellement que le contrat au départ était mal ficelé, donc on devait faire comprendre à tous ces cadres-là comment les choses doivent marcher et comment ils doivent tenir leurs documents d'archives.
Est-ce que le FIDA établit des stratégies de suivi pour voir si réellement les recommandations que vous avez faites vont être appliquées?
Tout à fait. Le FIDA fait les suivis à tout moment, de manière quotidienne, parce que ici sur place, nous avons la chargée du portefeuille de FIDA, c'est-à-dire celle qui fait les suivis de tous les financements du FIDA en RDC. Elle est sur place ici à Kinshasa, Madame Racha Omar.
Elle va vers ses partenaires?
Elle va vers les programmes et vers les partenaires pour que tout le monde soit en phase.
Nous savons que le FIDA vient en appui au gouvernement.
Tout à fait.
Peut-on savoir l'implication du FIDA dans cette formation et surtout dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces projets?
Ok. Au fait, c'est le gouvernement a demandé, parce que ça s'est déroulé sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Et le FIDA n'a fait que financer. Voilà, donc l'implication du FIDA, c'était financer et faire le suivi des recommandations qui devaient être faites après, pendant et après l'atelier.
Monsieur César Lando, je rappelle que vous êtes le responsable des passations de marché de tous les projets financés par le FIDA en RDC.
Oui.
Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Thank you. La nouvelle de province de ce dimanche concerne 10 provinces du pays qui sont touchées par l'oncocercose. Plus de 13 millions de Congolais sont déjà infectés, environ 26 millions sont exposés à la maladie et plus de 70 000 sont aveugles suite à cette dernière. Des chiffres publiés dans le dernier rapport de l'OMS et depuis le samedi dernier, le directeur général de l'OMS chargé de la lutte contre l'oncocercose mène des plaidoyers auprès des politiques congolais et ONG pour lutter efficacement contre cette maladie. Nadine Foulan-Simba nous parle de cette maladie.
L'oncocercose ou cécité des rivières est une maladie de la peau et des yeux qui est causée par un ver appelé Oncocerca volvulus. Cette maladie entraîne des sérieuses lésions cutanées et une cécité irréversible dans sa phase finale. D'après un rapport de l'OMS, sur l'ensemble du territoire, 237 zones de santé sur un total des 515 zones que compte le pays sont endémiques à la cécité des rivières. Parlant de la cause, il faut noter qu'en RDC, ce sont les conditions bioécologiques et les réseaux hydrographiques du pays qui sont favorables aux vecteurs de l'oncocercose. Et un programme spécialisé du ministère de la Santé a été créé depuis 1998 pour éliminer cette maladie. Deux stratégies sont recommandées dans la lutte efficace contre l'oncocercose, notamment la lutte antivectorielle qui est très coûteuse et les traitements à l'ivermectine sous directive communautaire appelée TIDC en sigle. Les séjours du directeur général de l'OMS chargé de la lutte contre l'oncocercose est donc une occasion pour interpeller les politiques et les ONG pour renforcer davantage les mesures pour réduire le nombre de malades en RDC.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je suis le commandant Thibault de Lacoste. Je suis un officier de l'armée française, envoyé en mission ici en RDC au sein de la MONUSCO. Je suis marié, je suis père de famille et j'ai déjà quelques années d'expérience militaire depuis que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. Donc, je suis d'abord entré à l'Académie militaire de Saint-Cyr, qui est l'école de formation des officiers de l'armée française, à la suite de quoi j'ai été affecté pendant une dizaine d'années dans des unités d'infanterie avec lesquelles j'ai participé à diverses opérations, par exemple en Afghanistan ou au Tchad. Et donc je suis maintenant envoyé en mission par mon pays au sein des Nations Unies à la MONUSCO. Je suis ici depuis 5 mois maintenant. Et ici, je travaille au sein de l'état-major militaire de la MONUSCO à Kinshasa. Et dans cet état-major, je suis l'adjoint du bureau des opérations, dont le rôle consiste essentiellement à conserver un suivi le plus précis possible de tout ce qui se passe, de toute la situation sécuritaire et surtout de toutes les opérations menées par la MONUSCO à travers le pays. Ce qui est pour moi une expérience assez nouvelle de connaître une mission de maintien de la paix, mais aussi de découvrir un pays qui m'était inconnu jusqu'à présent, un pays dont on ne reste pas insensible, puisque j'ai vraiment été particulièrement touché, en particulier de l'accueil très chaleureux des Congolais, qui ont toujours été très, très attachants et très accueillants envers moi. Voilà, ma mission va bientôt se terminer ici dans quelques semaines, puisque je n'étais envoyé pour 6 mois, et je vais bientôt donc rentrer en France où je vais d'une part retrouver ma famille, mais surtout et aussi reprendre mes activités professionnelles au sein de l'armée française. Je vais commencer par suivre la scolarité de l'école de guerre, qui est en quelque sorte l'école des hautes études militaires pour les officiers supérieurs, et qui traite de questions essentiellement politico-militaires et stratégiques. Voilà, à la suite de quoi je connaîtrai une nouvelle affectation et probablement, très certainement, de nouvelles missions. La RDC manquera certainement les Congolais encore plus, et je rentrerai chez moi avec une petite part d'eux dans mes bagages, et que je saurai, j'espère, retransmettre à ma famille et mes enfants, qui sont évidemment très, à la fois très intéressés, très fascinés par ce grand pays.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Je suis Crispin Gueye. travailleurs à la fonction publique. Récemment, nous avons suivi à travers les médias les réactions des lauréats à l'examen d'État. Franchement, la majorité s'exprimait mal en français, ce qui nous pousse à croire que le niveau de l'enseignement aujourd'hui est en baisse par rapport aux années antérieures. Pourtant, nous savons que l'UNESCO appuie toujours les systèmes éducatifs en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui explique cette baisse du niveau de l'enseignement et que fait l'UNESCO pour le relever?
Jean-Louis Kazadi, expert en éducation à l'UNESCO, qui est en ligne, vous répond.
Oui, monsieur Christian Gueye, vous avez fait un constat. Bon, votre question a deux volets. Bon, je vais commencer par répondre au deuxième volet de la question. Que fait l'UNESCO pour relever les niveaux? Bon, je vous dirai d'abord, monsieur Gueye, que le rôle de l'UNESCO est d'aider l'ensemble de ses États membres à traduire dans l'ère politique, les réponses aux enjeux mondiaux. Et concernant votre préoccupation, les enjeux ici, ce sont les enjeux de l'éducation et principalement la baisse de la qualité de l'éducation. Et pour relever cette baisse, ça relève de l'action gouvernementale. Nous apportons notre conseil au gouvernement, donc nous apportons de l'aide pour que les gouvernements puissent relever ce niveau-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Il y a des indicateurs, hein, qu'on appelle des indicateurs de l'éducation, qui sont calculés pour pouvoir établir si oui ou non il y a baisse de la qualité. Et l'UNESCO aide les gouvernements à mettre en place un système d'information pour la gestion de l'éducation qui permet de calculer tous ces indicateurs. Et ce système d'information est déjà fonctionnel. Environ 5-6 ans. C'est vrai, ces indicateurs montrent que la qualité de l'éducation n'est pas très bonne. Qu'est-ce que nous faisons? Sur base de ces indicateurs qui indiquent que la qualité n'est pas très bonne, l'UNESCO a appuyé le gouvernement à l'établissement d'une stratégie de développement de l'éducation qui prévoit un certain nombre d'actions en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation, notamment par exemple la fourniture de supports, l'optimisation et aussi l'actualisation des programmes scolaires. Et vous verrez que d'ici 2013, toutes ces activités pourront être financées à travers ce qu'on appelle les partenariats mondiaux de l'éducation auxquels la RDC a adhéré. Et vous pourrez constater que progressivement, la qualité pourra être améliorée.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Dernière rubrique de votre magazine, prenez donc vos agendas pour noter que l'UNICEF débute ce mercredi 1er août la campagne sur l'allaitement maternel. Cette campagne concerne les personnes à l'âge de procréer et notamment les mères qui allaitent et celles qui sont enceintes en République démocratique du Congo. Et puis le PNUD, ONU Femmes, le Bureau Genre de la MONUSCO et les femmes de la CAFCO lancent un plaidoyer sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. L'événement aura lieu mardi 31 juillet à l'église Notre-Dame de Fatima à Kinshasa, la capitale. Fin ce magazine, merci à vous d'avoir été de notre Jean-Pierre Elali, la coordonnée, Nicole Ngakamadidi était à la supervision et Mireille Boukassa-Moukendi vous l'a présenté. Merci de rester sur Radio Capi.